Chapitre 5. Du tact et de l'honnêteté. Sachez naviguer. Il est sage de verser sur le rouage de l'amitié l'huile de la politesse délicate. Colette, extrait de « Le pur et l'impur ». L'amitié disparaît ou l'égalité cesse. Abbé Aubert. Je vous parlais au chapitre précédent de la grande différence qui existe entre hypocrisie et gentillesse. C'est à peu près le même principe pour le chapitre que vous allez lire ici. Comment apprendre à concilier l'honnêteté avec le tact, la sincérité avec la louange? En fait, ce n'est pas si difficile qu'il n'y paraît, mais beaucoup de personnes confondent ces différentes notions. Vous avez sûrement entendu la maxime « trop bon, trop con ». La gentillesse et la louange, le compliment, sont considérés à tort comme des outils de manipulation ou au mieux comme des signes de faiblesse. En ce qui me concerne, je ne vois pas quel est votre mérite si vous assénez à votre entourage leurs quatre vérités sans prendre aucune précaution oratoire. Certes, vous aurez été sincère et honnête, mais quel bien allez-vous en retirer? Et eux, quel bien vont-ils en retirer également? À part la colère et la vexation, je ne vois pas bien. Oliver Wendell Holmes l'a dit très bien. Je me contenterai donc de répéter ses propos. Ne te réjouis pas si l'amitié t'autorise à dire des paroles désagréables à tes amis proches. Plus tu deviens proche de quelqu'un, plus le tact et la courtoisie sont nécessaires. Comme la citation de Colette un peu plus haut, c'est une vérité que vous oubliez souvent et qui n'est pas valable uniquement pour vos proches amis ou votre famille. Un petit exemple pour illustrer cette vérité? Je vais vous donner un exemple concret, car je l'ai vécu. Il y a quelques années, j'étais fou amoureux d'une jeune femme nommée Alice, qui n'avait à mes yeux qu'un seul défaut. Elle parlait tout le temps. Certes, il s'agit là d'un charmant attribut typiquement féminin. Aïe, madame, veuillez ôter votre ongle de ma peau, je vous prie. Mais il était vraiment très prononcé chez elle. Jamais un temps mort dans la conversation. D'ailleurs, il s'agissait plutôt de monologues tant il m'était difficile d'intervenir. Ébloui par sa beauté, et bête comme on peut l'être quand on est amoureux, mais je ne vous apprends rien, j'ai gardé pour moi un léger agacement qui n'a fait qu'empirer au fil des semaines. Je ruminais, je gardais tout pour moi, et puis un jour, paf, ça a été l'explosion. Au cours d'une conversation plutôt banale, ou disant d'un monologue plutôt banal, je lui lançais un rageur et charmant « Dis donc, ça t'arrive de respirer entre deux phrases ? Ralentis la cadence, je n'ai jamais vu une telle pipelette. » Ce n'était pas tant les mots, assez anodins si je les avais prononcés avec le sourire, que le ton employé. Alice a bien dû constater que je ne plaisantais pas du tout. Vous devinez comment notre romance s'est terminée, n'est-ce pas ? Pour une fois que j'avais droit à la parole, elle me l'a laissée définitivement. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, etc. Ma triste histoire, je vous rassure, je m'en suis remis depuis, n'est là que pour appuyer mon propos. Ne dites jamais rien sous le coup de la colère, de l'exaspération ou de l'énervement. Vous allez droit dans un mur. C'est une évidence, et pourtant, combien de fois avez-vous cédé à l'exaspération pour ensuite regretter amèrement vos propos ? Vouloir effacer ce qui vient d'être dit, l'intention est bonne, mais quand le mal est fait, il est fait. Et il est vraiment très difficile de revenir sur de bonnes bases de communication quand votre interlocuteur a été blessé, même si vous avez le courage de présenter vos excuses. Donc, un conseil immédiat, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire ce que vous avez sur le cœur, respectant en cela la vieille sagesse populaire. Mais n'attendez pas pour vous exprimer. Il est vraiment important que vous gardiez ceci en mémoire. Autant vous devez réfléchir avant de parler, autant vous ne devez pas non plus attendre que vos émotions prennent des proportions ingérables. Tout est dans la mesure. Quand vous sentez que quelque chose coince dans votre relation avec l'un de vos proches ou une connaissance, il vous faut prendre le taureau par les cornes et ne pas attendre que cela dégénère. Ce n'est pas difficile. Il suffit de réfléchir à la manière dont vous allez aborder le sujet, exactement comme lors des exercices du premier chapitre. Tout ce que vous ne direz pas va fermenter et se transformer en émotion ingérable, qui explosera en mots incontrôlés et irrattrapables. Je sais bien que les mots s'envolent, mais croyez-moi, on ne les oubliera pas de sitôt. Les choses qui fâchent. En fait, il vous faut retenir ceci. Tout est bon à dire, tout dépend de la manière dont vous le direz. Bien entendu, certaines choses sont plus délicates que d'autres. Dire à son collègue que l'odeur délicieuse de sa transpiration fait les délices de l'ambiance olfactive du bureau peut s'avérer une entreprise ardue, devant laquelle tous vos collaborateurs vont tenter d'échapper, en se bouchant le nez. Mais il y a fort à parier qu'un matin, en rentrant dans l'ascenseur à la suite du dit fauteur de trouble, l'un d'eux en ait vraiment assez de retenir sa respiration sur 36 étages et de ressortir soit bleu et au bord de l'apoplexie, soit vert et au bord de la nausée, selon qu'il ait réussi ou non à retenir sa respiration aussi longtemps. Et c'est à ce moment-là que les choses se gâtent, car lancé un hargneux, c'est pas possible de sentir comme ça, on n'en peut vraiment plus de ton odeur, ne va certainement pas améliorer l'ambiance au sein de votre équipe. Et c'est pourtant bien ce qui va finir par arriver si vous n'intervenez pas. Ne froissez pas la susceptibilité d'autrui. C'est l'une des règles de la communication et des relations sociales. Ne jamais, au grand jamais, froissez la susceptibilité de l'autre. Vous vous en feriez un ennemi de la façon la plus rapide et la plus absolue qui soit. Personne ne peut pardonner réellement une offense, pas plus vous que quelqu'un d'autre. On oublie donc les remarques mauvaises, les petites allusions blessantes, même si l'envie vous démange et on peut vous comprendre. Lorsque quelqu'un vous agace, vous énerve, vous exaspère, il est humain d'éprouver un plaisir assez pervers à lui donner une leçon, quitte à pratiquer un geste d'humiliation. Mais il ne faut surtout pas aller dans cette voie. Vous pourrez compter au pire un ennemi parmi vos relations. Et un jour ou l'autre, surtout quand vous ne vous y attendez pas, vous recevrez le retour de bâton, vous pouvez me croire. Le contournement, les allusions pas si discrètes que ça. Face à une situation telle que je viens de décrire, le collègue à la transpiration odorisée, vous pouvez choisir une voie médiane, non pas attaquer le problème de front, mais utilisez quelques allusions subtiles et déguisées pour faire passer ce délicat message. Mais je l'ai testé pour vous, aussi alléchante que soit cette approche, dans 99,9% des cas, ne donne rien. Vous avez beau discuter haut et fort des nouvelles technologies utilisées pour rendre les déodorants actuels extrêmement performants, raconter à la cantonade les mésaventures de un tel qui avait des problèmes de sudation et les a résolus avec efficacité, rien n'y fait. Pourquoi ? Si votre collaborateur n'a pas conscience de son problème, pourquoi voulez-vous qu'il se sente concerné par vos subtilités ? Et mieux encore, s'il en avait conscience, ne croyez-vous pas qu'il aurait trouvé lui-même une solution ? Car je vous l'assure, je ne connais personne qui ait envie d'avoir une telle réputation. C'est maintenant qu'il vous faut du tact. Prendre votre collaborateur à part et lui dire ce que vous avez à lui dire. J'en profite d'ailleurs pour rappeler cette évidence. Ne jamais, vraiment jamais, aborder une question personnelle et a priori délicate devant qui que ce soit, même si vous avez envie de vous sentir épaulé par la présence d'un tiers. L'idéal est de préparer cela comme si vous prépariez un défi, un challenge, avec minutie et intelligence. Mon exemple du collaborateur transpirant n'est peut-être pas bien fameux, mais c'était seulement pour introduire cette notion de préparation. Elle s'applique en effet à tout sujet délicat que vous devez aborder. Qu'il s'agisse de votre fils que vous avez découvert en train de fumer du cannabis, ou votre meilleur ami qui est trempé sans qu'il le sache. Quelques règles à suivre en terrain glissant. Voici quelques règles à suivre le plus précisément possible dans ce genre de situation. Vous devez vous débrouiller pour parler seul à seul avec l'objet du délit. Vous incluez cette conversation dans un cadre plus général, Par exemple, pour l'exemple du collaborateur, vous pouvez profiter d'un entretien individuel pour faire le point sur un projet, des résultats, etc. Vous devez commencer par mettre votre propre expérience en avant, vous appuyer sur vos fautes et erreurs. Même si vous devez mentir, mentez. Je vous assure, votre karma n'en souffrira pas. Expliquer à votre collègue que vous avez souffert du même problème que lui atténuera l'impact négatif de vos paroles, même s'il s'agit d'un mensonge éhonté. Soyez gentil et souriant. Essayez de détendre l'atmosphère par des plaisanteries ou par une attitude décontractée. Laissez votre interlocuteur s'exprimer librement, sans l'interrompre. Minimisez le problème pour ne pas lui donner l'impression qu'il va subir une énorme pression. En règle générale, si vous vous y prenez bien, il se sentira tellement gêné qu'il s'occupera sérieusement de la question sans attendre. De l'art de mener les conversations difficiles. C'est un art, oui, mais vous n'aurez aucun mal à le maîtriser si vous suivez les petits conseils que je viens de vous donner. Je l'ai testé moi-même assez souvent pour en connaître les résultats très positifs. En mettant votre interlocuteur à l'aise, en souriant et en vous mettant vous-même en cause, même, je le répète, si c'est un mensonge, résoudra bien mieux la situation qui aurait pu devenir inconflictuelle sans ces précautions. Si vous hurlez sur votre fils en parlant des dangers de la drogue, vous pouvez être sûr qu'il continuera, en cachette si besoin. Et bien malin sera celui qui le fera changer d'avis. N'oubliez pas que l'unique but est d'atteindre votre objectif final, que votre fils arrête de fumer, que votre collègue soit plus soigné, etc. Qu'il vous faille pour cela passer par quelques ruses ne doit pas vous poser aucun problème de conscience. C'est un art, à vous d'en passer maître.